Bretagne 5.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron demande aux agriculteurs de patienter. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui les syndicats agricoles et il a promis de leur livrer sa vision de l'agriculture, mais pas avant plusieurs mois. Ce pourrait même être l'an prochain, après les élections aux chambres d'agriculture. Une rencontre à Sciences Po Paris pour tenter de calmer les tensions. Rencontre de 2 heures entre les étudiants et la direction, après plusieurs journées de manifestations pro-palestiniennes et de blocages. Résultat, une réflexion interne va être lancée pour savoir si Sciences Po doit prendre position sur des sujets politiques. L'école annonce également maintenir ses partenariats avec les universités israéliennes, alors que les étudiants mobilisés demandaient de couper les ponts. Difficile journée devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le procès en appel de l'attentat de Nice a repris aujourd'hui avec la diffusion d'images de vidéosurveillance d'une boîte de nuit. Elle avait accueilli de nombreuses victimes le 14 juillet 2016. 4 vidéos diffusées dans la salle d'audience. Elles ne l'avaient pas été lors du procès en première instance. L'envoi de troupes au sol en Ukraine, une nouvelle fois évoquée par Emmanuel Macron dans une interview au journal britannique The Economist. Le chef de l'État indique qu'il faudra se poser la question de l'envoi de troupes si Moscou venait à percer les lignes de front. Je n'exclus rien parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien, précise-t-il. Le foot et ce coup de tonnerre à Reims où l'entraîneur Will Steele a été démis de ses fonctions. Le club l'annonce dans un communiqué et parle d'une fin d'aventure d'un commun accord. Les Rémois pointent à la 11e place de Ligue 1. Les Marseillais sur le terrain. Ce soir, l'OM reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame au Vélodrome en demi-finale aller de Ligue Europa. Coup d'envoi 21h. Et puis l'actrice américaine Meryl Streep donnera le coup d'envoi de la 77e édition du Festival de Cannes le 14 mai. Elle recevra une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. La dernière fois que Meryl Streep est venue sur la croisette, c'était il y a 35 ans. Elle avait reçu le prix d'interprétation pour Un cri dans la nuit. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
La sonate Appassionata de Beethoven est tenue pour objectivement plus importante que la rêverie sur la musique blessée, dénaturée, violée, assassinée par beaucoup de cuistres contemporains de Robert Cabi. Mais il peut tout de même y avoir des raisons subjectives et néanmoins très importantes de préférer jouer l'andante 24 février d'un certain Erwin Niregyasi que Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. Cette semaine, Métaclassique s'est rendu chez un pianiste chineur qui collectionne les œuvres de compositeurs qui ont échappé à la consécration. Et si François Mardi-Rossian en est venu à s'attacher à ces musiciens, c'est parce qu'il a pris l'habitude de chiner si bien que toutes les partitions dont il a fait l'acquisition sont chargées d'une histoire singulière, d'une attache. Pendant les 2 journées d'enregistrement dont cette émission vient vous offrir un condensé, nous avons égrené plus de 50 partitions, 50 artistes dévoués à la musique dont le point commun objectif est de ne pas avoir été retenu par la grande histoire, mais dont le seul point commun consistant est d'avoir été chiné par François Mardi-Rossian. À commencer par François Glorieux.
C'est très joliment touché. Enfin... Et c'est cette fameuse place du jeu de balle où il y a une brocante tous les matins, et notamment une grosse brocante le dimanche, et on peut tout y trouver.
C'est-à-dire, et c'est dans le centre ?
C'est en plein centre, c'est dans le quartier des Marolles. C'est la place, une des places bien connue de Bruxelles, où on peut retrouver vraiment des antiquités et des choses Et on peut trouver des pianos droits. J'ai des copains qui ont acheté des pianos à queue là-bas pour 50 euros. Enfin, c'est,
ah ouais.
C'est, en fait, c'est des... en Belgique, quand un vieux monsieur décède ou une vieille dame, eh ben, le lendemain, ça se retrouve sur le marché du jeu de balle et tout est bradé. Et puis, des violons de haute valeur, des archers, les, ouais. Vraiment les archetiers, ils vont souvent au marché du jeu de balle. Et un jour, je tombe sur ce vinyle, François Glorieux Plays the Beatles, qui a déjà une pochette affreuse, mais qui est juste géniale. C'est il reprend les thèmes des Beatles, mais dans le style de compositeur. Yesterday en Chopin, Obladi Oblada en Mozart.
Let it be en Schumann.
Let it be en Schumann. Yellow Submarine en Beethoven, en sonate de Beethoven, c'est juste merveilleux. Et c'est juste parfaitement bien fait. C'est ouais. Juste très émouvant, c'est très beau. Et je suis devenu une sorte de collectionneur. J'en ai une cinquantaine là dans le tiroir de vinyles de François Glorieux parce qu'il faisait ça avec tout. Et il avait un talent fou, il a fait des milliers de concerts. Il a une vie incroyable. Il a été très ami avec Michael Jackson.
Ah oui?
Parce qu'en fait, il était arrangeur aussi, et Michael Jackson l'a fait venir aux États-Unis pour faire un arrangement. Bref, il a une vie incroyable, j'étais un fan absolu, et j'ai réussi à retrouver son contact, sa trace, et je suis allé le rencontrer pour la première fois il y a un an et demi de ça. Il est mort il y a quelques semaines, quelques mois. Et j'ai passé une après-midi chez lui à découvrir tous ses objets, toutes ses photos. Il a rencontré Neil Armstrong, il a rencontré le chat d'Iran.
Mais il improvisait ou il écrivait les partitions?
Il improvisait. Après, c'était des improvisations qui, au bout d'un moment, devenaient
oui,
des œuvres en tant que telles,
ouais,
qui
ouais.
Se stabilisaient. Mais c'est un grand improvisateur. J'ai des vidéos sur mon téléphone
ouais.
Où il improvise comme ça. Il a improvisé Obladi Oblada sur Mozart. C'était un peu de sa spécialité. À Bruxelles, il y avait un magasin qui était assez connu des musiciens, qui s'appelait Prélude, où ils vendaient plein de partitions, plein de livres et plein de vinyles, très peu cher. Et un jour, je suis allé chez ce gars, et j'ai vu qu'il y avait un monde fou, et le petit vieux qui tenait ce magasin venait de décéder, et son fils était en train de tout brader. Donc je suis ressorti avec des sacs immenses, remplis pour 30 euros, j'avais toute une bibliothèque royale. Enfin, c'est
parce que les disques... partitions, elles viennent du même endroit, alors c'est...
Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup en Belgique. Après, beaucoup que j'ai commandé, parce que les partitions contemporaines ne se trouvent pas tout en Belgique. Mais il y a toute une pile de partitions de musique belge, carrément, parfois, on me donnait, en fait, parce que ça n'intéresse plus personne. Et clairement, ça n'intéresse plus personne. Mm. Mais il y a des petites découvertes qui, aujourd'hui, portent leurs fruits, en fait. Comme par exemple Willy Dortu, en fait, que j'ai découvert une fois en fouinant. J'ai été étudiant au Conservatoire Royal de Bruxelles, mais aussi à Mons pendant un an. Et je me doutais que dans la bibliothèque du Conservatoire de Mons, je pouvais faire des découvertes vraiment inédites. Et c'est caché dans une page de partition que j'ai découvert une petite pièce qui s'appelait Deux pièces de Willy Dortu. Et comme ça m'a intrigué tout de suite de voir dans l'écriture qu'il y avait un côté Satie et aussi qu'il y avait cette dédicace dédiée à Jean Cocteau. Et je l'ai emprunté et je l'ai joué chez moi. J'ai trouvé ça très bien. J'ai fait un petit enregistrement avec un pote, ingénieur du son, et j'ai mis sur YouTube. Et 8 ans après, j'ai un médecin à la retraite qui me contacte, qui était très surpris de savoir qu'il existait des choses sur Willy Dortu sur Internet et que ça venait que de François Mardi-Rossian. Et on a commencé à correspondre et il se trouvait qu'en fait, il venait d'hériter du fond Willy Dortu qui dormait dans un grenier, dans une vieille maison à Verviers. Et avant de tout foutre feu, ils l'ont appelé pour savoir si ça intéressait, étant donné que c'était un collectionneur de timbres et aussi de vieilles partitions. Et de fil en aiguille, il m'a envoyé des scans de ses manuscrits, et j'ai trouvé plein de pièces intéressantes. Et en fait, l'année dernière, j'ai préparé un concert consacré à Ricardo Vignès.
Oui. Donc
le pianiste
qui,
catalan.
Qui est complice de Satie et qui a créé un certain nombre de ses pièces.
Tout à fait. Et en fait, bon, on s'imagine bien qu'il devait avoir une bibliothèque incroyable, Ricardo Vignès. Et j'ignore pourquoi. C'est pas resté en France ou en Espagne, c'est dans une université au Colorado. Et ils ont numérisé toutes les partitions de Ricardo Vignès et ils les mettent en accès libre. Donc j'ai passé des heures parce qu'il en a des milliers. Et c'est encore un site que j'explore au moins une fois par semaine et je ne mens pas quand je le dis. Parce que
donc c'est la partothèque qui appartenait à Vignès.
La partothèque de Ricardo Vignès
ouais.
Avec tous les envois des compositeurs pour Ricardo Vignès quand il a envoyé des compositions. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert une pièce de Willy Dortu dans la partothèque de Ricardo Vignès avec un envoi de Dortu pour Ricardo Vignès, bien respectueusement, Willy Dortu. J'arrive pas à lire la date exacte. Je pense que c'est dans les années 20, les années 30. Et cette pièce, atmosphérique. Joli, il y a un côté vraiment Satie, belle époque, qui m'a tout de suite plu. Ça, c'est la petite découverte, Willy Dortu, toujours une découverte belge grâce à mes études au conservatoire.
Mais on a l'impression quand même que la Belgique est une espèce de paradis pour Chiné.
Tout à fait, là, c'est un paradis des brocantes, des antiquaires, mais aussi à Bruxelles, ils ont une très belle bibliothèque. Il y a vraiment de très belles choses, on peut les emprunter, parfois on ne peut pas les emprunter, on peut juste les consulter.
Ce qui fait que les partitions de dilettantes sont en circulation.
Ah ouais, tout à fait. On peut les trouver. Faut juste avoir la curiosité. Comme je me suis aussi intéressé aux peintres en Belgique, que ce soit Jean Delville qui a été l'ami de Scrabin, ou que ce soit évidemment Magritte. Il y en a un autre que j'aimais beaucoup, c'est James Ensor. J'étais allé plusieurs fois visiter sa maison, son appartement à Ostende. Et j'avais remarqué qu'il avait quand même un tropisme pour la musique. Il avait un harmonium, il se prenait souvent en photo devant son harmonium. Et je me suis dit, tiens, il a sûrement dû composer. Et effectivement, il y a tout un rapport sur la musique avec James Ensor, donc ça sont dans ses toiles aussi. Et je suis allé chercher des manuscrits qui traînaient dans les conservatoires royaux. Et je suis tombé sur une pièce qui s'appelle « La gamme d'amour ». Je peux vous montrer une sorte de petite valse. C'est pas la musique la plus révolutionnaire, mais c'est toujours sympa de se dire qu'on est en train de jouer un peintre. Donc là, je pianote, hein, j'ai des chiffres, c'est des manuscrits qui sont pas forcément plus très très bien, très très lisibles. Mais j'imagine qu'un jour, il y aurait moyen de trouver d'autres pièces de James Ensor, parce que j'ai que trois petites valses, au fond, et je pense que j'aurais encore besoin de passer plus de temps pour...
Parce que jouer de la musique de peintre, c'est aussi mettre l'écoute à un endroit presque moins sérieux. Enfin, on se dit que c'est de la musique qui est quasi hors piste, qui a quand même le charme d'être sans prétention. C'est...
Tout à fait, un peu comme Messens. Messens, c'était un peintre, et je suis tombé sur ses pièces pour piano que j'ai trouvé vraiment intéressantes au point de les enregistrer. Et pour la petite anecdote, comme j'avais mis une alerte Le Bon Coin et eBay sur Messens, l'été dernier, là, je reçois une alerte comme quoi un objet Messens est apparu sur Le Bon Coin et c'était un de ses collages original qu'une dame vendait à 4000 euros. Sauf que j'ai pas 4000 euros là-dedans, donc je lui demande si elle ferait un prix, mais elle me dit qu'elle me ferait un prix pour 3000 euros. Je dis, j'ai toujours pas 3000 euros. Ben, je lui dis désolé, bon, merci, bon week-end, au revoir.
Ouais.
Un mois après, elle revient vers moi en me disant, j'ai toujours pas vendu cette toile, est-ce qu'elle vous intéresse toujours? Je dis, oui, mais. J'ai pas cet argent, je peux mettre max 200 euros. Je dis ok.
Et elle a fini par lâcher.
Elle l'a lâché à 200 euros. Et là, en ce moment, j'ai besoin de faire un petit peu d'argent. Je m'en défais. Donc, je l'ai mis à l'hôtel des ventes de Montpellier. Et il partira en mars. Prix de réserve 2000 euros.
Mais ça a combien d'alertes sur eBay, Le Bon Coin?
J'en ai pas mal. Si tu veux, on peut les regarder.
Ah ouais? Parce que là, c'est vraiment des traces de.
C'est les traces de mes recherches, en fait. Et parfois, je reçois trop de mails, en fait. Alors, j'ai une alerte pour Georges Perros,
ouais.
Korngold, Schnittke, Mario Stanchev, Sébastien Gandera, Comitas, Blanton Wiggins, Rosemary Brown, évidemment, Monpou, Robert Cabi, le Kiosque Orphée. Kiosque Orphée, c'est génial ça. C'est un label de musique qui n'existe plus, mais en gros, c'était juste un presseur de disques. Si t'avais une chorale et que t'avais envie de te faire un disque, t'allais au Kiosque d'Orphée et pour une telle somme d'argent. C'est que t'es le label des amateurs, en fait.
D'accord.
Et c'est vraiment intéressant, je t'en parlerai. J'ai même créé un article dessus. Sébastien Gandera, toujours, Eric Satie, Jean-Marie Massou, le musicien brutiste Knosgaard, écrivain norvégien que j'aime beaucoup, Moondog, Kremski, Lubomir Melnik, David Toup, Gottschalk, piano, Srichin Moy, Ovanès, Dominique Lavalleré, Paul Léoto, parce que je suis un fan de Paul Léoto.
C'est vrai?
Ah, moi j'ai pratiquement tout Paul Léoto dans ma bibliothèque.
D'accord.
Alfred Laliberté, j'ai découvert ce nom. C'est un compositeur, musicien, pianiste québécois, canadien, lors de mes recherches autour de Scrabin. Et quand j'étais étudiant à Bruxelles, j'ai appris, je crois, durant un cours d'histoire, que Scrabin avait vécu quelque temps à Bruxelles. Et ça m'a totalement intrigué. Et je suis reparti un peu sur les traces de ce Scriabine à Bruxelles et j'en ai même fait une sorte de mémoire.
Ça, c'est le moment où il a commencé, je crois, à faire des études sur la synesthésie et qu'il a essayé de la théoriser.
Tout à fait. C'est à Bruxelles qu'il a découvert, par exemple, le poème de Rimbaud, A noir, E rouge. Je sais plus si c'est exactement celui-là. Mais en tout cas, c'est là où il a commencé à voir que d'autres personnes que lui voyaient des correspondances entre les sons, les couleurs et la synesthésie, tout simplement. Et j'ai fait plein de recherches, etc. Et j'ai aussi appris que Scriabine, lors de son passage à Bruxelles, avait eu des élèves en composition. Et notamment beaucoup d'élèves canadiens et québécois. Et notamment un certain Alfred Laliberté qui était venu du Canada pour étudier avec Scriabine. Et tout de suite, j'ai été très intrigué de savoir s'il a été élève de composition, c'est qu'il a composé, de découvrir les œuvres. Et ça a été très dur de trouver des choses parce qu'il n'avait rien édité. J'ai passé des semaines, des mois à chercher dans tous les sens, à secouer Internet, secouer les bibliothèques royales et canadiennes. Et finalement, on m'a répondu et on m'a scanné plein de pièces. Alors, quelle n'a pas été mon émotion quand j'ai reçu le Wiz Transfer avec les PDF contenant les manuscrits d'Alfred Laliberté. Qu'est-ce que j'ai été déçu, en fait. Franchement, il n'y a aucune pièce qui m'a intéressé.
À ce point ?
Ah ouais, je peux jouer celle que j'avais jouée, je crois, Petit refrain lyrique, qui est très mal écrit pour le piano. En plus, on sent une écriture malhabile. Alors qu'il a été élève de Scriabine. Donc ça, c'est la pièce que j'avais jouée, qui est peut-être la plus intéressante. Ouais, on jouera la moins intéressante. Que reste-t-il de nos amours ?
Que reste-t-il ? Moi je pensais à une espèce de petit fort-tout sur un nuage de coton. Quoi.
Ouais, c'est
un peu au ralenti en même temps.
Et c'est très mal écrit, c'est un peu dur à jouer. Et c'est pas du tout ce qu'on attend d'un élève de Scriabine en fait.
Oui, c'est ça, le prof crée un horizon d'attente sur l'élève.
Mais ça m'a malgré tout amené à faire d'autres découvertes musicales assez intéressantes grâce à Alfred Laliberté. C'est qu'en fait, c'était peut-être pas le compositeur du siècle et je pense qu'il en a eu conscience dans le sens où il a rien édité. Ce sont des manuscrits que sa veuve a déposés à la Bibliothèque du Canada. Mais il a eu comme élève des gens très intéressants et notamment cette compositrice Ruth Crawford Seeger qui est une des pionnières de l'atonalisme et des musiques dissonantes aux États-Unis. Et c'est donc une sorte de descendante de Scriabine parce que ça a été une élève d'Alfred Laliberté. Et ça a été, Alfred Laliberté aussi était l'élève a été le professeur de Rodolphe Mathieu, compositeur canadien qui a été le père d'André Mathieu. André Mathieu, c'est un compositeur canadien qui maintenant revient clairement à la mode parce que ça a été une sorte de protégé de Rachmaninoff à un moment. Mm. Et donc, Alfred Laliberté a, mine de rien, été un pédagogue important au Canada et dans le nord des États-Unis pour un peu apporter la bonne parole scriabinienne.
Il a bien transmis à défaut de bien recevoir. Quoi.
C'est ça. Ouais. Et la petite anecdote qui continue, parce que j'étais déçu de cette musique, mais je l'ai jouée, j'ai fait tout un concert où j'ai joué du André Mathieu, du Rodolphe Mathieu, du Ruth Crawford Seeger. Ce genre de concert, ça a été un peu fondateur dans ma vie de musicien, de pianiste. C'est-à-dire que ça m'intéresse plus de passer du temps à chercher là-dessus plutôt que le nombre d'heures que j'ai passé à construire ce concert, à faire ces découvertes, je préfère les mettre là-dedans plutôt que de faire la meilleure clavière de Beethoven.
Ouais.
C'est une mission que je m'impose, mais j'ai plus de choses à dire et à apporter là-dedans plutôt que de passer des heures à monter le troisième concerto de Rachmaninoff ou la meilleure clavière. Enfin.
Oui, mais ça veut dire aussi de présenter à un public des partitions dont t'es pas intégralement sûr de la valeur pleine, quoi.
Alors ça, j'étais sûr que c'était pas de la grande valeur.
De la non-valeur.
Alors ça, j'étais sûr de la non-valeur, et même dans le concert, c'était un peu le moment comique du concert où je racontais l'histoire d'Alfred Laliberté et de ses recherches. Et ça m'a quand même coûté 90$, ces transcriptions, parce que les bibliothèques font pas ça gratuitement. C'était le moment où je rigolais, mais en fait, il y a d'autres pièces où vraiment que j'ai découvertes qui sont restées vraiment très intéressantes pour moi. Celle d'André Mathieu, Rodolphe Mathieu, sont des très très belles pièces, en fait. on sent qu'il y a quelque chose à dire. C'est de la belle musique, il y a des harmonies. C'est donc ça, ça m'a fait rencontrer de la très bonne musique. Il y a cette pièce, cette compositrice dont je parlais par rapport à Scriabine, par rapport à mes recherches scriabinesques.
Et c'était une élève de la liberté.
C'est une élève de la liberté.
Donc
Alfred de la liberté, ouais. Il a une femme élève qui s'appelle Jeanne Lavoie, dont on sait peu de choses, qui a eu beaucoup d'influence, mais qui a peu laissé d'écrits, peu de témoignages, pas de photos, et qui a eu beaucoup d'élèves, et non cette Ruth Crawford Seeger, qui est une sorte de digne héritière de l'univers scriabinesque. Musical assez incroyable et qui me fait vraiment penser à Ovanès en fait. Et en fait, je me suis souvenu que mon père qui était gynécologue, maintenant il est à la retraite, avait quand même des goûts musicaux assez ouverts et curieux, et ce qui fait que dans la discothèque de mon père quand j'avais 7-8 ans, j'y trouvais des disques de Philip Glass, bon pourquoi pas, ça se fait, mais aussi des disques d'Alan Ovanès, des disques d'André Mathieu. Tous ces compositeurs qui aujourd'hui m'ont nourri et me font avoir des projets musicaux. Et Ovanès, parce qu'il savait qu'il était d'origine arménienne, il était intrigué, mais il ne se souvenait plus qu'il l'avait dans sa discothèque, donc c'est pas comme s'il l'avait connu parfaitement. Et moi, c'est toujours des noms qui ont existé dans ma vie de musicien. Et quand, au fur et à mesure que je grandissais, vers 14-15 ans, je me suis rendu compte qu'il avait aussi composé beaucoup de pièces pour piano, donc je m'y suis intéressé, j'en ai découvert plein chez Peters. Après, j'ai découvert qu'il y avait un site internet. Toujours la même façon, j'écris, je tombe sur le fait que en fait, c'est sa veuve qui tient son site. On rentre en amitié, elle m'envoie beaucoup de manuscrits, elle me les vend à prix d'or, elle me les photocopie, elle me les envoie du Massachusetts, là où elle continue à vivre à l'époque. Et j'ai découvert des pièces qui m'ont plu, en fait, qui m'ont donné envie d'en faire un projet musical, d'en faire un disque qui est sorti en 2022 et qui a eu pas mal de bonnes récompenses. J'étais assez content pour un compositeur vraiment obscur comme Ovanès, qui est bien connu aux États-Unis, mais en France, on a tendance un petit peu à le sous-estimer. Dans toutes ces partitions, il y a une partition qui est la plus rare.
Ah bon ?
À ton avis, c'est laquelle ?
De toute la...
Alors, il y a un côté très... les grands classiques du piano, et après, à côté, à droite, c'est les contemporains et les oubliés.
Et les oubliés, c'est ça ?
Les oubliés de la cave.
Et c'est dans les oubliés, forcément, ouais, qu'il y a une rareté.
Mais pourtant, le nom est très connu. Il n'est pas tellement connu en tant que compositeur, mais en tant qu'improvisateur.
Chick Corea.
Non.
Qu'est-ce que j'arrête, non ?
Qui j'arrête. J'ai reçu ce colis.
Ah mais c'est encore dans l'enveloppe.
Ah ouais, mais j'ai gardé l'enveloppe parce que là, qui vient d'Italie d'ailleurs. Donc je suis un peu un grand fan de Qui j'arrête. Enfin, je suis pas un peu, je suis un immense fan. Je l'écoute depuis petit souvent. Et il y a quelques années, quand j'étais au Japon en 2019, j'ai eu une révélation quand j'ai écouté ses Sun Beer Concerts, la série des 6 concerts qu'il a donné au Japon, où c'est des immenses solos d'une heure et demie. Ça syncrétise tous les langages musicaux du XXe siècle dans ces 6 concerts. Et après, je me suis lancé corps et âme dans toute sa discographie. Rapidement, on découvre qu'il y a un disque assez particulier, publié chez ECM, son label. C'est une pièce qui s'appelle Ritual. Et c'est la seule pièce composée, écrite par Keith Jarrett. Et sur le disque, c'est pas Keith Jarrett qui joue, c'est Dennis Russell Davis. Je lui dis, si c'est une pièce écrite, il y a quelque chose d'autre dans cette musique. Je suis rentré en contact avec Dennis Russell Davis, évidemment, il a jamais répondu. Et sur YouTube, je suis tombé sur une autre version de cette pièce, un live, d'un Américain qui s'appelle Richard Treadle. Une version live des années 70, une vidéo qui a 15 ans, et que je trouve même mieux que Dennis Russell Davis. La version est beaucoup plus belle, beaucoup plus investie, intéressante. Et j'ai cherché pendant des semaines à rentrer en contact avec ce type, un pianiste-compositeur qui était prof de composition à Rome depuis les années 70. Et je lui ai écrit un mail, une fois j'arrive à trouver son adresse mail sur un vieux site qui traînait. Et 2 mois après, je reçois une réponse de Richard Treadle. Dans le mail, je lui avais demandé comment il avait fait pour avoir cette partition. Et à côté de ça, j'entourais ma demande de plusieurs compliments. Je trouvais qu'il jouait bien. Il était lui-même compositeur et je trouvais que quelques-unes de ses œuvres étaient vraiment intéressantes. Et il me raconte qu'en fait, quand ce disque est sorti dans les années 70, lui aussi, il a eu le coup de foudre pour cette pièce. Et à l'époque, il a réussi à écrire à Keith Jarrett en lui disant « Ben voilà, monsieur Jarrett, j'aime beaucoup votre pièce. Est-ce que c'est possible que de la jouer, vous m'envoyez la partition ?» Et Jarrett lui a envoyé la partition. Et il me raconte que ça a été pour lui la plus belle récompense musicale de toute sa vie, que Keith Jarrett lui envoie cette partition et l'a enregistrée, et il a mis l'enregistrement sur YouTube, et voilà. Mais dans son courrier, Jarrett n'a jamais mentionné le fait de savoir si Richard pouvait transmettre ou pas cette partition, donc il ne le fera pas. Donc j'étais vraiment à ça d'obtenir la partition. C'est-à-dire que je savais que quelqu'un l'avait, j'étais en contact avec lui, on avait un bon rapport de correspondance, mais il ne souhaitait pas me donner la partition parce que Keith Jarrett ne lui avait pas dit s'il pouvait le faire. Évidemment, j'ai insisté, comme tu peux l'imaginer, à coup de mail, à coup de compliments, à coup de « je la donnerai à personne d'autre, ce sera que moi, je le dirai jamais à Keith Jarrett ». Enfin, non, il était inflexible. Et il s'est passé un an sans que je l'aie, j'ai essayé par d'autres moyens de l'avoir. J'ai recontacté Dennis Russell Davis, j'ai essayé par le manager de Keith Jarrett, qui m'a répondu et qui m'a dit qu'en fait, elle n'était pas éditée et que ça n'allait pas être édité. Bon, je désespérais un peu, et un jour, je me suis dit « bon, je vais y aller au bluff ». J'ai écrit à Richard Treadle que j'avais eu un contact avec Keith Jarrett récemment, et que je lui avais parlé de cette pièce et que je souhaitais la jouer pour un concert. J'avais inventé une sorte de gros concert à la Philharmonie de Paris ou je sais pas quoi. J'ai vraiment inventé un beau bar. Et que Keith Jarrett n'avait plus la partition et qu'il autorisait Richard Treadle à me la donner. C'est vraiment une histoire complètement abracadabrantesque. Parfois, ça m'arrive, avant de me coucher, de faire 2-3 mails comme ça, bouteille à la mer. Je les appelle comme ça. Et parfois, ça marche. Et là, ça a marché. Mais ça a marché. 2 mois après, il m'a répondu, d'accord. Laissez-moi le temps, là je suis à l'hôpital, je suis mourant. Laissez-moi le temps de retourner chez moi ou qu'un de mes fils le fasse, mais là je peux pas le faire. Donc là encore une fois, je voyais l'espoir. Bah, déjà j'étais triste pour lui parce que j'avais quand même un peu de la sympathie pour ce monsieur. Mais en même temps, je dis mince, le moment où il dit oui, il est en train de mourir, c'est quand même une ironie du sort. Bon, il est ressorti de l'hôpital. Et 4 mois après, donc tout ça c'est vraiment, c'est 2-3 ans d'histoire tout ça. J'ai reçu ce colis. Je te jure, quand j'ai ouvert la boîte aux lettres, c'était celle-là, je tremblais tellement j'étais... J'ai ouvert. Et c'était parfaitement... Parfaitement photocopié. Rituel pour piano. De qui je t'arrête. Toutes les pages. Il les a renumérotées à la main, au stylo. J'ai toute la partition. Et c'est un
chef. C'est long, en fait.
C'est long, c'est une grosse pièce. C'est une sorte de sonate de Liszt de qui j'arrête.
D'accord.
Une demi-heure, elle fait. C'est une pièce d'une traite. Il n'y a pas de pause. Et c'est, pour moi, c'est une des plus belles pièces que je trouve pas très bien défendues. Et c'est l'objet de mon prochain disque que je vais enregistrer cette année. Donc je suis trop content de mon coup de bluff. Je l'ai remercié comme je sais pas quoi. Je lui ai envoyé mes disques, je lui ai envoyé des cadeaux. Et 2-3 semaines après, il est mort. Donc vraiment, ça s'est joué à...
In extremis, en fait.
In extremis, ouais. Je peux essayer de jouer...
Ouais, pour entendre comment ça sonne.
Un petit bout. Thank you. etc., etc. Et c'est une grosse pièce qui met du temps à s'installer, avec plein de thèmes, et ce thème qui revient tout au long, il y a d'autres thèmes qui sont traités, il revient à la fin, enfin c'est vraiment une pièce très très bien construite, je trouve. Donc l'histoire de cette partition, c'est tout de suite, ni une ni deux, parce que j'ai eu très peur que la maison prenne feu le jour même où je l'avais reçue, et je l'ai numérisée. Je l'ai mis sur 3 disques durs, je l'ai mis sur une clé USB, je me le suis envoyé sur mon cloud, et je me suis envoyé en mail. Je me dis, cette partition, jamais je vais la perdre. En fait, même un de mes meilleurs amis qui est pianiste, il aimerait bien l'avoir et il adore qu'il j'arrête. Je lui dis, je te la donnerai quand j'aurai enregistré le disque. J'ai un côté un petit peu... Ça, c'est aussi... Qu'est-ce qu'on a là sinon? On a Frédéric Lagneau, qui est quand même le minimaliste à mon goût. Le plus remarquable.
Mais il y a une malice dans l'agneau, ce qui n'est pas tant que ça le cas des minimalistes consacrés.
Non, bah lui, c'est vraiment un minimaliste à la Satie, je trouve, l'agneau, parce que que ça soit dans ses jeux de mots de titre, le baiser de l'effet papillon, à mesure et au fur, l'écho des pavanes, je me souviens de do dièse majeur dans un prélude de Bach, dans do. Enfin, il y a vraiment un côté Satie dans l'humour, en fait. Mais dans le côté traitement musical et technique, là, on est ailleurs. On est vraiment dans les Américains, dans Steve Reich, notamment, je trouve. Et quand on regarde ce que jouait et ce qu'aimait Frédéric Lagneau comme musique, enfin, on se rend compte qu'il avait vraiment les oreilles ouvertes pour toutes ces musiques-là, et bien avant tout le monde, en fait. C'était vraiment son patrimoine génétique. Ça, c'est très beau, ça, la Wind Mosaic numéro 1. Et ça, c'est Bruno Lothar qui m'a fait découvrir ce compositeur. Et que j'ai mis les doigts sur ces musiques. Rien que quand on voit une partition comme ça, avec si peu de notes, on sait que c'est de la bonne musique. Je sais pas pourquoi, on sait que ça sonne, en fait, juste en deux notes. C'est juste parfait, en fait, d'univers musical, de clarté. Enfin, c'est un peu étrange parfois de savoir pourquoi une musique marche, pourquoi une autre musique marche pas. Et juste à la lecture, par exemple, hier, je suis retombé sur une pièce que je vais enregistrer, je suis certain, parce que je trouve que c'est vraiment un inédit de chez Inédit. C'est l'exercice pour rentrer à la SACEM de François de Roubaix.
Ça s'appelle vraiment comme ça.
En fait, à l'époque, à la SACEM, on devait savoir harmoniser une mélodie. C'était le concours d'entrée pour être vraiment... accepter à la SACEM. Maintenant, je crois que n'importe qui peut être à la SACEM à partir du moment où on fait de la musique. Mais à l'époque, il y avait ce côté...
Il
faut avoir été joué et il faut savoir écrire la musique. Donc, il te mettait dans une salle et il te donnait un motif à développer et à harmoniser sur 16 mesures au moins. Et j'ai retrouvé l'exercice qu'avait fait François de Roubaix. Je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais travaillé, mais je l'ai trouvé hier dans mes archives d'Internet. Je peux essayer de le jouer pour voir ce que ça donne. C'est peut-être pas son chef-d'œuvre, mais j'ai des genres de petites pièces, je suis très content de les trouver, en fait. Je me dis, ah tiens, voilà un truc un peu inédit. Après, c'est pas parce que c'est inédit que le moindre papier toilette écrit par un compositeur est digne d'être enregistré, en fait. Je suis pas atteint d'intégralité, en fait.
Oui, mais le fait que ce soit un peu à fleur de corpus, que ce soit un peu sur le bord du catalogue, est-ce que en jouant, ça donne quelque chose d'un peu...
Parfois oui, parfois non. Là, ouais. Je me rends compte qu'en jouant, c'est peut-être pas son chef-d'œuvre et que ça servira à rien que le faire. Et je suis pas.
Ah oui, c'est peut-être pas si intéressant que ça.
Je suis pas dans l'anecdote pour l'anecdote, en fait. Moi, j'aime bien les pièces qui ont quelque chose à dire, en fait.
Ça peut être la jouissance de la distance de ce répertoire par rapport à quelque chose qui serait beaucoup plus massivement au centre d'une œuvre, quoi.
Ah, oui, mais ça, je l'ai tellement partout ailleurs dans ce que je fais que j'ai pas besoin de me rajouter la piécette vraiment. C'est un peu ma marque de fabrique de trouver des pièces un peu inconnues, rares.
D'être dans un à côté, ouais.
Ouais, mais bah, mon premier disque, Moondog, c'était que ça. Alan Ovanes, c'est que ça. Gymnopédiste, mis à part le disque Satie, c'est que ça.
Mais est-ce que ça suppose de faire attention à ce que le côté soit pas du bas côté, mais du haut côté ou...
Ah ouais, clairement.
Ouais, c'est ça.
Clairement, par exemple, là, si je prends la partition que j'ai sous les mains, là, de Nyeri Gyasi, compositeur, pianiste, virtuose, hongrois, à la vie complètement dissolue, extraordinaire. À l'âge de 14 ans, il était tellement un prodige, une énigme scientifique, qu'il y avait déjà des scientifiques qui avaient écrit un livre sur lui.
Pour, des psychologues.
Des psychologues, ouais, totalement, pour se dire, mais comment se fait-il qu'un type comme ça existe dans le monde de la musique. Il s'est marié 11 fois, il s'est fait poignarder par sa 9e femme, il a été doublure main à Hollywood, il était alcoolique, accro au sexe et à l'ist. Et ce qui est pas mal, hein. Comme,
et c'était dans cet ordre-là Francis passait ouais. Après le sexe.
Je suis accro à l'ist.
Ah non, l'ist en premier.
À l'alcool et au sexe oral, c'est ça sa citation bien connue. Enfin, bien connu, juste de moi. Mais il a écrit des pièces qui sont très étranges et qui me font penser au dernier liste, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pièces où c'est d'un dénuement, mais c'est ultra touchant aussi. Et je peux essayer d'en jouer une qui, moi, m'a tout de suite plu. C'est une pièce écrite en 1985, 2 ans avant sa mort. Et c'est des pièces qui sont complètement nues. C'est du piano minimaliste, mais sans le minimalisme, en fait. Bah, moi, j'arrive pas à m'empêcher de penser qu'il se passe quelque chose dans cette musique et qu'il faut peut-être y croire, y adhérer ou se mettre dans une disposition intellectuelle ou des immobilités sérieuses pour un peu y adhérer. Mais moi, c'est la première fois que j'ai joué cette pièce qui se finit d'une façon extraordinaire. C'est une des plus belles pièces que j'ai enregistrées. Je l'ai mise sur YouTube. Ça se finit d'une façon totalement vulgaire et solennelle et hors de propos. Ça se finit comme ça. Ça se finit en si bémol d'une façon beaucoup trop prononcée. Enfin, c'est très très bizarre tout d'un coup, comme s'il
voulait tout casser. Ça,
ouais, il y a des pièces comme avec des titres assez hilarants. Une pièce que j'aime bien, c'est La terreur de jouer la Passionata de Beethoven en concert. C'est une pièce pour piano qui n'a rien à voir avec la Passionata, mais qui. De foutage de gueule intégral de Beethoven avec ses fins à la rallonge en mémoire de l'assassinat du président John Kennedy. Il y a vraiment des pièces incroyables chez ce compositeur. Moi, je suis convaincu que ces musiques-là, parfois, faut les aider aussi. En fait, on aide bien des œuvres un peu méconnues de Schumann, de Chopin ou de Beethoven. On les interprète bien, on les travaille bien. Et pourquoi on ne le ferait-on pas pour ces œuvres-là, en fait ? Il y a des moments où ça m'arrive de faire des œuvres pas connues comme ça et de les aider, c'est-à-dire de bien les interpréter, de les travailler et peut-être même parfois peut-être ajouter une octave ou de changer un truc ou de prendre mon temps de vraiment les interpréter. Pour moi, le rubato chez Chopin, c'est aider l'œuvre en fait. Si on le joue comme un robot, c'est sûr que ça sera chiant. Mais non, en fait, faire de la musique, c'est aider les œuvres tout simplement.
Parce que par exemple, Rosemary Brown, elle a besoin d'être aidée.
Ah ouais, totalement.
Ah oui, c'est ça.
Ah ouais, non, c'est sûr que si on joue ça tel quel. En même temps, c'est à double tranchant parce qu'il faut la jouer comme si on jouait les compositeurs qu'elle est censée défendre, en fait. Quand elle fait un nocturne de Chopin, il faut le jouer comme on jouerait un nocturne de Chopin. En tout cas, c'est dans l'état d'esprit moi, dans lequel je me suis mis quand j'avais fait un petit concert où je défendais sa musique, ou même sa pièce hommage à Schumann qui est juste magnifique, en fait. Est-ce que c'est Schumann? Est-ce que c'est Rosemary Brown? Je sais pas, mais je vais essayer de la retrouver. Elle était là, ouais. Thank you. En fait, c'est pas une musique révolutionnaire. Schumann, il a écrit des choses beaucoup plus belles. Mais je sais pas si on essaie d'avoir un joli son. Si on fait ça avec sincérité, sans se dire que c'est la musique la plus révolutionnaire du monde. Sans en faire dans le sentimentalisme non plus, parce que ça pourrait vite ressembler à du Michel Polnareff, mais... je trouve qu'il y a toute mauvaise musique, parfois, si on la joue vraiment sincèrement et bien, peut devenir presque de la bonne musique.
En fait, mais il n'y aurait pas de musique totalement insauvable?
Si, j'imagine que si, je dois en avoir, hein, mais je m'y attarde pas, en fait. Je ne consacrerai pas, à part Alfred Laliberté, c'est un peu l'exemple le malheureux pour lui.
C'est le point Godwin des inconnus de la musique.
C'est ça. Il y a des choses, non, ça, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, en fait.
Mais qu'elles soient justement sauvées de l'oubli sur le fil, leur donne aussi une patine, parce qu'on les entend avec une histoire, déjà, qu'on vient d'énoncer.
Puis je pense que sans l'histoire, cette musique n'aurait aucun intérêt. En fait, il faut être honnête aussi. Je pense que tous ces gens-là ont des destins un peu hors normes, qui déjà suscite l'intérêt en fait en soi. Après, quand leur musique en plus a quelque chose de très particulier, c'est parfait, j'y fonce, moi j'adore. C'est comme pour Rosemary Brown en fait. C'est pas de l'anecdote pour l'anecdote, j'ai pas envie de devenir le pianiste Per Castor qui raconte des histoires quand il fait du piano. Mais en même temps, pourquoi pas? Je vais pas raconter la vie de Beethoven ou de Mendelssohn ou de Schumann toute ma vie alors qu'elle est très bien faite et que tout le monde la connaît. Mais peut-être aller un peu musarder dans d'autres destins musicaux.
Mais ça veut dire que la part de la recherche de partition prend un temps presque aussi important que la part de travailler le piano?
Ça, c'est une critique.
Non, c'est une question de méthode. C'est une vraie question de méthode.
C'est une critique que je peux me faire moi-même. Parfois, je passe plus de temps à chercher des partitions qu'une fois que j'ai trouvé, que la travailler, en fait.
Ouais.
Je pense que pour l'instant, j'ai mis plus de temps à trouver Rituel de Jarrette que le travailler. Et ça, je sais que si je dois l'enregistrer, je vais devoir mettre du travail dessus. Mais oui, c'est sûr. En fait, ça se mérite, certaines partitions. Ça prend du temps, ça prend des années. Parfois, il faut même attendre qu'elles soient sorties, en fait, avant que les chansons de Charles Trenet arrangées par Alexis Weissenberg sortent en vraie partition. Une très belle édition, d'ailleurs, chez Muse Press. Il y avait des PDF qui circulaient sous le manteau sur Internet avant de sortir la vraie partition, où là, j'ai pu retravailler enfin les vraies versions de En avril à Paris, qui a été un de mes tubes quand j'étais au conservatoire, et qui sont des très belles pièces. Mais oui, parfois c'est plus de temps de recherche que de temps de travail. C'est juste pour le plaisir aussi, en fait. Il y a plein de pièces que j'ai jouées depuis tout à l'heure qui sont juste pour mon plaisir à moi de découverte. Il n'y a pas de but de profit de les rendre rentabiliser en concert, en disque ou je ne sais quoi. C'est juste, j'ai envie de me mettre telle musique sur les doigts, je suis content de l'avoir, en fait. Dans mon iPad, je me suis fait des catégories où je classe, j'ai des fichiers.
Ah oui.
Où j'ai...
Par usage,
parfois
concert, prochain disque.
Ah, exactement, J'ai, on va remonter jusqu'en haut. Évidemment, classé par compositeur, etc. Alors, Robert Cabi.
Alors là, c'est par Satie, en fait, que tu arrives à Cabi.
Totalement. Robert Cabi, c'est un peu, pour ceux qui connaissent et qui aiment bien Satie, c'est un nom forcément qui résonne, car c'est lui qui a été un des acteurs principaux pour la redécouverte et l'amélioration du corpus satiesque. Dans les années 60, il a fait éditer chez Salabert bon nombre d'œuvres qui n'étaient pas encore éditées, qui étaient soit oubliées, soit mésestimées. Et lui, il a fait un travail de faire sortir, par exemple, les trois nouvelles gnossiennes, par exemple, que tout le monde connaît. Plein de pièces, que ce soit les airs à Ferfure aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui, tout jeune, quand il avait une vingtaine d'années, il avait 20 ans exactement, parce que Satie est mort en 25 et lui, il avait 20 ans en 1925. Pendant un an et demi, deux ans, il a côtoyé Satie en tant que jeune normalien, il sortait de Normal Sup. Et ils ont eu des liens d'amitié assez forts, parce que tous les deux étaient un peu des anarcho-communistes. Et Robert Cabi s'est trouvé dépositaire de pas mal d'œuvres, de manuscrits d'Éric Satie, et a fait tout ce travail pendant des années de récolter, d'aller voir Darius Milhaud, de lui reprendre quelques manuscrits et de les faire éditer, en fait. Donc il a fait vraiment un travail formidable auprès d'Éric Satie. On lui est vraiment redevable, tous les musiciens qui jouent Satie. Et en préparant ce disque, Les Gymnopédistes, un ami, musicologue, journaliste, François Henry, m'a conseillé d'aller un peu chercher autour de Robert Cabi, parce que lui-même avait été compositeur. Bon, il est mort en 90, mais il se trouve que son fils, qui est assez âgé aujourd'hui, habite à une demi-heure de chez moi, à 7, à côté de Montpellier. Et je suis allé le rencontrer et il m'a donné des centaines de cahiers, parce que là je les ai en vrai, mais en PDF, je les ai encore plus. Plein de pièces pour piano, et pas que pour piano, de son père. Une écriture très à la Satie, donc, dès qu'on ouvre, on voit des pièces pour piano sans barre de mesure, trois pensées nocturnes, avec des titres aussi. Vraiment, c'est tout l'univers de Satie. J'ai certaines partitions, je ne sais pas si je les ai là en vrai, mais où on voit même des dessins surréalistes, parce qu'il dessinait aussi beaucoup Robert Caby.
L'influence de Satie s'entend encore plus dans les années où justement il republiait les partitions inédites de Satie ou...
Je crois pas, je crois que ça l'a été un peu toute sa vie. Mais c'est une musique très particulière, j'arrive pas à je vais être honnête, mais j'arrive pas à savoir si c'est une musique géniale ou complètement nulle.
Ah oui, c'est à mi-chemin, exactement à mi-chemin.
Je sais pas si c'est à mi-chemin, mais c'est très particulier, je suis très décontenancé quand j'entends cette musique. Je peux essayer d'en jouer une pièce. Je crois que les embages, c'est faisable. Les titres sont dans l'envie, en fait. Mais après, quand je joue, je me dis, mais en fait, ouais, non.
L'envie retombe.
L'envie retombe. J'en ai pas mal aussi sur mon iPad pour te montrer les recueils avec des images. Donc, ça, c'est vraiment ses premières pièces. On voit, c'est vraiment des musiques nues, en fait. Parfois, il y a juste 3 mètres.
Oui.
En fait, c'est du minimalisme avant l'heure aussi.
Satie, elle est pas si loin dans le dépouillement, quand
non,
même.
Non, mais ouais. c'est intéressant. Un jour, j'en ferai quelque chose, j'en suis certain, parce que c'est des gestes artistiques.
Oui, puis il y a les notes sans hampe qui font un peu penser au Fouralina.
Ensemble, grave, gay, d'une intimité triste et sans rhétorique. Suite de phrases
sans
musique.
Rhétorique.
Ouais, c'est vraiment du Satie avant l'heure. On voit l'écriture.
Ah oui, il revendique ce côté archi-dépouillé, alors.
Mec, c'est l'écriture un peu maladroite aussi, on le voit. Mais j'en ai des tas. Suite paléolithique. Je peux essayer de jouer une pièce qui s'appelle...
Oula.
Trois pièces de campagne, 1925. Bah, exactement.
Ça, ça a l'air minimal, hein.
L'année de la disparition de Satie. Je peux essayer de jouer. C'est vraiment du déchiffrage pur et jus. Trois pièces de campagne. La pièce s'appelle La Résignation. Et comme indication musicale, c'est couleur des yeux. Je sais pas quoi en penser.
Ça pourrait s'appeler Voilà Voilà.
Voilà Voilà. Ouais, c'est très particulier. Je vais essayer d'en trouver une autre. Et j'étais tellement heureux quand j'ai découvert cette musique. Quand je voyais tout de suite. Et là, je me suis fait avoir. Parce que quand j'ai vu ces partitions, j'ai dit oula, là, je tiens un sésame. Parce que je me disais, ça, c'est des choses que j'ai jamais vues jouer, jamais vu des pièces très particulières.
Ça avait vraiment l'allure d'un chef-d'œuvre inconnu, c'est
ça? Mais c'est ça, ouais. En fait, tous les manuscrits sont très faciles à lire, en plus, mais avec des dessins surréalistes.
Ouais.
Et je pense que ça vient de moi, parce que je pense que j'ai pas les clés exactes pour bien comprendre cette musique. Et pourtant, il a vraiment eu une importance musicale, parce qu'il a beaucoup côtoyé l'intelligentsia de gauche communiste à l'époque. Il a connu très fortement Aragon, il a eu une correspondance, Robert Caby, assez prononcée avec Trotsky. Enfin, c'était quelqu'un qui était dans le milieu intellectuel assez réputé, assez respecté. Mais sa musique, c'est complètement hermétique pour moi. Et pourtant, j'avais vraiment l'impression de tomber sur des chefs-d'œuvre inconnus. Avec des dessins, je me disais, mais c'est juste parfait, on a trouvé le Dali de la musique.
Ah ouais.
Ouais, c'est...
Ah, même les partitions, ouais.
Peut-être qu'un jour j'y reviendrai en me disant, mais en fait, c'est juste que j'avais pas les clés, j'étais pas assez articulé pour pouvoir.
Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein.
Ah ouais,
Et elles viennent d'où, ces partitions?
C'est le Frédéric, le fils.
Le fils, ouais.
Qui me les a données, et il y a 50 cahiers comme ça.
50
cahiers qui ont à peu près à chaque fois une 200 pages.
D'accord.
Donc c'est des kilos de musique en fait.
Ouais.
Il y a une personne qui a enregistré un disque, un Suédois, avec qui j'ai été en contact et il m'a envoyé son disque. Et à l'écoute de son disque, bon, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a enregistré ça sur un clavier Nova, et ça m'a pas convaincu non plus des masses. Donc, avis au pianiste et au musicologue. Robert Cabi vous attend.
Il y a 10 000 pages de partitions à explorer.
Ouais, mais.
Et qui n'ont jamais été jouées, jamais enregistrées.
Non, jamais. Et il y a vraiment des pièces qui sont immensément longues, hein. Si on regarde le glossaire, deuxième sonate.
Mais ça a été édité quand même.
C'est édité par l'association qui a créé son fils. Il a passé la.
D'accord, c'est très posthume alors.
Ouais. A édité des cahiers. Il a créé une association et il a fait éditer la musique de son père. Et c'est énorme en fait. Il passait son temps à écrire 4 pièces de musique climatique. Tendresse musclée, et c'est que les désirs de la tranquillité. Et rêverie sur la musique blessée, dénaturée, violée, assassinée par beaucoup de cuistres contemporains.
Ça, c'est une musique écologique, alors.
Ouais, mais ça aussi, les titres me donnaient cahier de pleurs rentrés. Je trouvais ça génial comme musique.
Et ça donne quoi?
Ah, ça donne quoi, cahier de pleurs rentrés? On va essayer. Okay. J'arrive pas à comprendre. Je pense que j'arriverais mieux à comprendre la deuxième sonate de Boulez en déchiffrage que cette musique.
Parce que ça t'est arrivé déjà de sortir de la perplexité par rapport à une partition de Cabi ou pas Cabi, mais enfin en l'occurrence de Cabi, apparemment ça n'est pas arrivé.
Non,
mais
pour l'instant c'est pas encore arrivé. Je crois, ouais, mais après c'était pour des gros chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que la première semaine, la deuxième semaine où j'ai travaillé le Pierrot Lunaire de Schoenberg, je comprenais strictement rien, en fait.
Parce qu'on pourrait toujours se dire que les chefs-d'œuvre, c'est à cause de leur réputation qu'on insiste.
C'est sûr.
Et qu'on finit par trouver un chemin.
Et là, en l'occurrence, j'avais un concert, un enregistrement prévu avec, donc j'étais quand même bien obligé de le travailler.
Ouais.
Contrairement à Cabi, où je pouvais pas le faire ou le faire, ça changeait rien. Donc là, j'étais obligé vraiment de me coltiner. La partition du Pierrot Lunaire, sauf qu'en plus je m'étais trompé, j'avais pris une version piano seul et voix, c'est-à-dire que je faisais tous les instruments en même temps. C'est pour ça que j'arrivais pas techniquement en fait, je me disais mais c'est comment on peut jouer cette pièce? Et quand je me suis rendu compte qu'en fait je faisais la partie piano, mais en même temps je faisais aussi la partie clarinette et en même temps je faisais la partie violoncelle et flûte, je me disais bah oui en fait c'est normal, je peux pas tout jouer, je suis pas un orchestre. Une fois que j'ai eu la vraie partition piano originale, ça s'est un peu allégé et là j'ai compris l'intensité et l'expressionnisme de cette musique qui m'a vraiment fasciné. Où j'ai vraiment pris mon pied à jouer cette musique, même si je suis pas sûr d'en faire souvent du Schoenberg. Donc ouais, par exemple, ça c'est des pièces qui ont été hermétiques au début, qui se sont un peu ouvertes. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai plutôt une tendance à pas m'attarder en fait. C'est comme les livres, si au bout de 10 pages ça me convient pas, je les laisse tomber. Je sais qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ouvrent un livre, même s'ils détestent, ils se forcent à le finir. Je comprends pas cette attitude en fait. Je pense qu'on a peu de temps sur cette terre et on a peu de temps pour lire des bons livres. Si ça vient pas tout de suite, c'est peut-être que c'est pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment de faire cet effort-là aussi. Et après, je le regretterai peut-être hein, d'être passé à côté de certains chefs-d'œuvre littéraires ou même musicaux, mais j'aime bien l'instantanéité de tout de suite mettre les doigts sur une musique. Et ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé assez récemment de tout de suite me rendre compte que ah ouais, ça c'est de la musique que j'aime bien. Et ça arrivait avec un ami qui est décédé il y a moins d'un an, qui s'appelle Mario Stanchev. Mario Stanchev qui est bien connu des Lyonnais et des jazzman parce que c'est un grand pianiste de jazz qui a fondé la section jazz du Conservatoire Régional de Lyon. Un des premiers pianistes aussi dans les années 80 à s'intéresser vraiment à Monpou en tant que jazzman, à s'intéresser à le jouer, à le transcrire, à le rejouer à sa façon. Et on est devenus amis très proches grâce au festival, qui venait tout le temps découvrir les compositeurs qu'on lui proposait. Et rapidement, il m'a demandé si ça m'intéressait de jouer sa musique pour piano seul. Et en fait, il en avait des tas. Il en a écrit des kilos et des kilos. Il m'a envoyé plein de pièces. Il en écrivait tout le temps. Et il y a à la fois parfois des pastiches, des imitations baroques, comme il les appelait. Parfois, il y a des pièces vraiment originales, contemporaines, assez parfois dures d'accès. D'autres, ce sont des petits hommages qu'il faisait à des compositeurs qui découvraient un peu au festival. Là, c'est un hommage à Montpou.
Ah oui, il répliquait à ce qu'il entendait au festival.
Ouais, c'était des par exemple, il a fait une pièce. La première pièce qui m'a vraiment fait flasher, c'est une pièce qu'il a composée en hommage à Moondog, qui m'a dédié. C'est la première pièce, il est venu et je l'ai trouvé très très chouette. Bon, je pourrais peut-être plus la jouer là parce que elle est pas facile. Mais il avait composé un hommage à Schumann. L'hommage à Schumann est très très beau. Je peux essayer de jouer les premières mesures. Et tout de suite, la partition m'a parlé en fait assez libre, assez. Centrale un peu plus accélérée. Enfin, c'est vraiment une musique très expressive. Il y a des spécificités musicales qui moi, m'ont intéressé depuis pas mal d'années, parce que j'ai eu la chance d'être ami avec un libraire qui s'appelle Dominique Coueffet, qui avait une librairie magnifique sur les quais de Saône. Et depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, il ne se passait pas une semaine sans que j'aille pas passer un petit moment chez lui et découvrir des partitions, que ce soit les grands classiques ou des choses un peu méconnues. Il avait un piano, j'avais le plaisir de me mettre souvent à son piano pour déchiffrer, lire des choses. Et c'est là que j'ai rencontré un peu tout un panel de compositeurs, très peu de compositrices, de compositeurs lyonnais, fin 19e, début 20e, des gens que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève et qui au fond avaient eu une importance musicale lyonnaise très prépondérante. Et c'est eux qui faisaient un peu la pluie et le beau temps dans le milieu lyonnais, en étant le directeur du conservatoire, en étant les conseillers artistiques de l'Orchestre de Lyon. Et par exemple, une personnalité comme Edmond Tria, ça m'a beaucoup intéressé, dans le sens, c'était, pour résumer, c'était un peu le Alfred Cortot de Lyon. Il avait un trio qui marchait bien, il était compositeur, il était transcripteur, il était professeur de piano, il a été directeur du Conservatoire de Lyon pendant pas mal d'années. Il est né en 1890 et mort en 1980. Donc, il est assez contemporain et il a fait une musique très très intéressante. Là, j'ai, grâce à Dominique, tout un stock de partitions d'Edmond Tria. J'ai un prélude qui s'appelle...
Alors c'est Ennemond, hein.
Ennemond, ouais. E-2-N-E-M-O-N-D. Là, c'est un prélude qui s'appelle Sur les pas de Blandine Dagout. J'ai deux recettes chantées.
Deux recettes, ça veut dire que c'est de la musique...
C'est de la musique à manger, je pense. Je vais pas la chanter. Porc à l'espagnol. Donc pour ceux qui veulent faire cette recette. Et tartine anglaise. Et donc c'est dans un bol vaste et profond, jeter trois jaunes d'œufs qu'il faut mêler rapidement avec l'huile préférée. Donc on est chez Jacques Demy avec Michel Legrand, avant l'heure. Je peux essayer de faire un pastiche.
De Edmond Tria alors.
Donc c'est une œuvre présumée posthume, trouvée en 1949.